Alors bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois qu'il y a des noms de connectés, mais des personnes de connectées, mais je ne vois pas les noms. Donc merci à ceux qui écrivent dans la zone de commentaires. Bonjour à Claude, bonjour à Immacula, bonjour Lalande, bonjour Landry, bonjour aux grandes filles. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la vidéo fonctionne bien? Juste me laisser savoir, s'il vous plaît. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Merci Claude. Buenos días, hermano Miguel. ¿Siempre se encuentra en Montreal o ustedes están en Chile para ahora? Donc, il semble qu'on m'entend bien, c'est beau. Quelques petits problèmes techniques ce matin encore. Donc, bien content que tout passe comme il faut en bout de ligne. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour à Lucie. Merci Claude, merci Lalande. Bonjour à la sœur Florie. Bonjour Rachel. Donc bonjour à la sœur Maria. Bien content que tu sois là-bas. J'espère que ton séjour dans la région de Mascouche se passe bien. Donc salutations aux gens que tu vois aussi. Donc Maria, qui d'autre que tu es allé voir là-bas? La sœur Zéphie. Oh, bonjour Jean, que Dieu te bénisse. Jean du chemin, bien heureux que tu sois avec nous ce matin, sois béni. Je vais faire de la publicité pour toi, le plus beau IGA. Au Québec, se trouve à Ville-Saint-Laurent et sous la sage directive de Jean et de ses frères. Donc, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, c'est un IGA d'un autre niveau. Très, très beau, très, très belle entreprise. Que Dieu te bénisse, Jean. Bonjour Guy, je ne me rappelle pas si je t'ai salué, mais rebonjour. Bonjour Marie-André, bonjour Farley. C'est vrai Rachel, j'ai oublié Yanira. Que Dieu la bénisse aussi. Tu les salues toutes de notre part. Et bien sûr, on salue les sœurs qui sont connectées avec toi. Je suppose que Mona, Chantal et Ocilia se connectent malgré tout à travers ta connexion. Ce matin, donc, on les salue, elles aussi. Et tu devrais être pas loin non plus de chez Jude et Caridad. Donc, si tu les vois, on les salue aussi. Bonjour à Jean Rosario, que Dieu vous bénisse. Jean-Gilbert, Ozani, soyez bénis. Alors, on vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours et une première section va être confirmée ce soir après l'étude biblique. C'est la sœur Patricia qui fait les confirmations en milieu de semaine. Donc, elle les fait habituellement après, mais dorénavant, elle les fait après l'étude biblique du mercredi soir, puisque durant la journée, elle est professeure et elle enseigne. Donc, c'est ce soir qu'elle vous contactera pour ceux qui se seront déjà inscrits. Et comme on parle d'études bibliques, on se retrouve encore ce soir à 19h pour approfondir les notions qu'on a partagées dimanche sur la bonne terre dans la parabole du semeur. Donc on vous invite à être là dès 19h ce soir. Et pour ceux qui ont raté l'étude, pas l'étude biblique, mais la bénédiction matinale d'hier, il y avait quand même pas mal de contenu. Donc on vous invite à l'écouter après coup ce matin. On m'a fait beaucoup de commentaires sur l'étude d'hier. C'était un peu chargé, mais vous semblez avoir apprécié. Donc on est content que ça vous ait béni. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Bienvenue parmi nous. Bonjour Thérèse. Que Dieu te bénisse. Marie-Marthe, bonjour. Si Marjolaine est à tes côtés, nous la saluons aussi. Thérèse, il est 8h26 maintenant. J'ai pas vérifié à quelle heure, si tu t'es connecté à 25 ou à 26, mais tu es de bonne heure. Bonjour à ceux et à celles qui se connectent via la page Internet de l'Église ou via les moteurs de recherche, ou ceux qui se connectent un peu plus tard, qui nous regardent en différé. On est heureux de vous avoir. Lâchez-nous un petit message à l'occasion, juste pour égayer notre journée, nous faire savoir que vous êtes là. On sait que vous êtes là, mais un petit mot, ça pourrait, c'est toujours agréable, disons. Donc, si vous vous connectez après coup, juste mettre une petite note ou nous envoyer un petit message pour nous dire, hey, j'étais là. Et ça nous fera plaisir de mentionner vos noms si c'est possible. Hello, Pastor David. Good morning to you. May God bless you and may you have a blessed day with the Lord today. Un peu plus frais ce matin en se levant. Il faisait autour de 15 ou 16 degrés ce matin à 5 heures. Mais ça va monter, je pense, jusqu'à 22 ou 23 aujourd'hui. Mais pas de facteur humidex. Donc, c'est une journée agréable. En tout cas, je pense que c'est agréable. Marie-Huguette, bonjour. Encore quelques minutes avant qu'on ne débute ce matin. On arrive pratiquement à terme de notre série d'études sur les symboles de la parole de Dieu. On est rendu à notre 19e symbole. Bonjour Jane, que Dieu te bénisse. J'allais saluer Sydney, mais je suppose qu'elle n'est pas là, qu'elle est déjà à l'école ce matin. Donc nous la saluons. Tu lui transmettras nos salutations par la suite. Bien entendu, on salue aussi la sœur Mona. Merci pour les salutations. On lui renvoie ces mêmes salutations. Que Dieu la bénisse. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. On espère qu'André, votre époux, va bien. Je regarde à droite et à gauche au bas de l'écran parce que j'ai mes deux écrans qui me donnent les messages et les connexions qui sont un peu plus bas que la caméra. Ici, Rosie, pour Montréal, il y a du soleil jusqu'à dimanche. Je pense que dimanche, c'est nuageux ou un peu de pluie, mais jusqu'à samedi, officiellement. De ce que la météo disait ce matin, ça va être assez beau. Vous commencez à me connaître, Sylvie. 3 pieds de neige, je serais content. Je serais vraiment content, 3 pieds de neige. Bonjour Sylvia, soyez bénie. God bless you, Sylvia. Bonjour à ma belle-mère. Effectivement, 1er septembre 2021. Le temps passe si vite. Bonjour Pascal, bonjour Gabriel, bonjour Jean-Bernard. Alors on va prier et puis on vous explique comment on procède pour aujourd'hui. On fait les petites annonces aussi et tout ça. Alors merci Seigneur pour cette autre merveilleuse occasion que nous avons d'être en ta présence et aussi cette opportunité, ce privilège que nous avons de plonger nos regards dans ta parole, une parole riche, une parole qui transforme nos vies, une parole qui à l'occasion nettoie, à l'occasion sanctionne et à l'occasion nous motive. En fait, ta parole est parfaite, elle accomplit en nous ce qu'elle doit accomplir et nous prions d'être cette terre propice à ta parole, propice à recevoir ton enseignement, afin, Seigneur, que nous puissions porter un fruit qui t'est agréable de ce côté-ci de l'éternité, mais aussi, Seigneur, lorsque nous nous retrouverons en ta présence, un fruit qui perdure jusque dans l'éternité. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère. Je demande, Seigneur, que tu puisses déverser ton onction sur nous ce matin, que ta parole reçoive le meilleur des accueils qui soit et qu'elle puisse être ointe par ton esprit, afin, Seigneur, de transformer, changer, apporter tout ce qu'elle doit apporter dans notre vie. Tu avais prévu cette parole de toute éternité en pensant à nous aujourd'hui ou à ceux qui entendraient cet enseignement au jour où ils l'entendraient. On demande donc une même onction, qu'une même grâce déferle sur nous, comme sur ceux qui écouteront par la suite ce même enseignement. En toute chose, nous voulons élever ton nom, ce nom qui seul peut sauver, ce nom qui seul a été donné afin de sauver le pécheur repentant, ce nom qui est élevé plus haut que tout autre nom, le seul et l'unique nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié dans ce merveilleux nom. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à ce 19e symbole qu'on aborde aujourd'hui quant à la parole de Dieu. Vous savez que tout au long du mois d'août, et on termine cette semaine, on a essayé de prendre le temps pour discuter sur l'importance de la parole de Dieu, sur l'importance que cette parole de Dieu devrait revêtir dans notre vie. Alors, on y est allé par deux, avec deux approches simultanées. On a vu le dimanche et le mercredi soir en reprise et puis en approfondissement, on a vu la parabole du semeur et en se demandant quel type de terrain nous sommes et quel type de terrain nous devrions être pour le Seigneur. On termine ce soir avec une deuxième explication et un approfondissement de la bonne terre. Et comme deuxième approche, on a vu aussi tout au long du mois, lors des bénédictions matinales, on a vu différents symboles. Demain, ce sera le 20e et dernier symbole que la Bible nous donne concernant la parole de Dieu. Et parmi tous ces symboles, c'était des images qu'on voulait concrètes, qu'on voulait révélatrices pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions saisir ce que Dieu a placé entre nos mains. Et parfois, lorsqu'on saisit ce que nous avons, on saisit par la même occasion comment l'utiliser. On parlait au tout début que nous avions de la semence, et assurément, on ne fait pas avec de la semence ce qu'on va faire avec de l'eau. On ne va pas faire avec de la semence ce qu'on fait avec un marteau. On ne va pas faire avec de la semence ce qu'on fait avec un pain, qui est, oui, issu de la semence, mais qui a été travaillé, pétri, et qui forme par la suite donc un pain. Et chacune de ces représentations de la parole de Dieu, en tout cas, on essayait et on espérait que chacun de ces symboles ou de ces images nous amène à saisir, à apprécier, à aimer davantage cette parole qui est placée entre nos mains. Aujourd'hui, on voit donc un 19e symbole, un verset qu'on a déjà lu il y a quelques semaines lorsqu'on parlait du marteau dans Jérémie 23. On parlait que sa parole était comme un marteau qui brise le roc, mais le début du verset a une autre image. Donc, on va avoir deux versets aujourd'hui, Jérémie 23, 29, et puis dans le Nouveau Testament par la suite, dans Luc 24, 32. Je donne les références pour que vous puissiez aller chercher déjà dans vos Bibles ces deux passages. Donc Jérémie 23, 29 et Luc 24, 32. Et l'image qu'on étudie aujourd'hui, c'est le feu. Et si vous regardez le titre que j'ai donné à l'enseignement du jour et que j'ai rementionné dans mon petit message de salutation et d'introduction tout à l'heure que j'ai posté, c'est la parole, un feu qui nettoie, qui sanctionne et qui motive. La parole, un feu qui nettoie, qui sanctionne et qui motive. Pour ceux qui prennent des notes, toujours le feu en hébreu, puisqu'il y a un texte dans l'Ancien Testament et un texte dans le Nouveau. Donc, en hébreu, pour l'Ancien Testament, c'est le terme esh, ESH. Donc, esh pour le feu en hébreu. Et pour le grec dans le Nouveau Testament, lorsqu'on va parler du feu, on va parler du terme pyr, pyr, PYR. De ce terme-là, on a eu notamment un mot en français, pyromane, donc celui qui aime le feu ou celui qui est malade avec le feu, donc pyromane, qui vient de pyr ou pyro, qui parle donc du feu, PYR. Alors, je lis pour vous le premier texte dans Jérémie au chapitre 23, le verset 29. Et si vous êtes des fidèles des bénédictions matinales, vous allez très vite vous rappeler de ce verset qui nous dit au verset 29, Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc. Rappelons-nous du contexte de ce verset. C'est un verset et un passage dans lequel l'Éternel va s'élever contre les fausses prophéties et contre les faux prophètes. Ces gens qui viennent dire ainsi parle l'Éternel, mais qui parlent en fait de leur propre chef, suivant leurs propres émotions, leur propre inspiration ou imagination, va-t-on dire plutôt, au lieu de parler véritablement et véridiquement au nom de l'Éternel. Et ce faisant, la Bible nous enseignait effectivement que Dieu, avec sa parole, allait être un marteau qui brise le roc. Et on avait vu que c'était donc briser la fausse prophétie, briser l'incidence de ces fausses prophéties, briser aussi l'influence que peut avoir le faux prophète sur son entourage. Donc, un peu dans la même pensée, tout d'abord, le Seigneur qui va dire concernant ces fausses prophéties, ces faux prophètes, qu'ils sont en fait de faussaires, qu'ils sont en fait des choses qui doivent être réprimées dans le corps de Christ et dans l'Église, puisque n'étant pas des agents de l'Éternel. Et il va nous dire, donc, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et le feu peut être interprété de différentes façons. Premièrement, le feu vient nettoyer. Lorsqu'on voulait débroussailler adéquatement un champ à l'époque biblique, et je vous dirais que je le fais moi-même encore aujourd'hui, j'ai un terrain de pétanque juste à côté de la maison, et même si j'ai bien monté la chose avec de la fibre et tout ça, et que j'applique tout ce qui doit être appliqué, malgré tout, il y a des mauvaises herbes qui viennent à pousser. Et de la façon dont je me débarrasse de ces mauvaises herbes, j'ai acheté un chalumeau de 50 000 ou 60 000 BTU que j'accroche à une bonbonne de gaz. Et puis je viens littéralement brûler la mauvaise herbe une, deux ou trois fois durant la saison. Une au tout début, une à la moitié, à la mi-saison, puis une à la toute fin avant que l'hiver n'approche. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et aussi dans la culture tout à fait contemporaine, on voit encore aujourd'hui la technique de la terre brûlée, où pour nettoyer un certain périmètre de terre, une certaine parcelle, on va donc utiliser le feu. Donc la parole ici placée dans ce contexte du passage qui traite de la fausse prophétie, des faux prophètes, donc la parole de Dieu va nous servir à nettoyer ce que la fausse prophétie pourrait avoir implanté. Et comment cela va se faire? Ça va se faire en comparant la prophétie, en comparant le message qui est donné avec ainsi parle l'Éternel ou ainsi parle le Seigneur, en comparant cela avec la parole de Dieu. Donc, est-ce que le message qui est donné comme étant une prophétie cadre avec le message biblique? Est-ce que ce message est effectivement, peut effectivement être appuyé théologiquement par la parole de Dieu, par la Bible? S'il y a divergence à ce moment-là, le message spontané qu'on voudrait décrire comme un rhéma, si le rhéma vient en désaccord avec le logos, la parole écrite, alors ce n'est pas un rhéma et ce rhéma doit être écarté de nos croyances et écarté de notre foi. Donc la parole de Dieu vient tout d'abord nettoyer ce que la fausse prophétie pourrait avoir implanté comme message, comme directive, comme instruction. De surcroît à ça, lorsqu'on parle de la parole de Dieu qui vient nettoyer, la parole de Dieu nous aide aussi à nettoyer. Est-ce que cette prophétie cadre avec le déroulement du culte? Hier, on parlait que la parole de Dieu est aussi un instrument pour nous dire comment le culte doit être célébré. Alors, est-ce que la prophétie est donnée dans le cadre même que la Bible établit par rapport à la prophétie? Est-ce que celui qui manifeste la prophétie est soumise au cadre biblique en disant qu'il y a un moment pour parler puis qu'il y a un moment pour se taire, qu'il ne doit pas y avoir de désordre durant le culte. Est-ce que de la façon dont la prophétie est amenée, est-ce que ça cadre dans le rituel, j'aime pas le terme, mais on va l'utiliser malgré tout, dans le cadre que la Bible nous donne par rapport à comment on tient une assemblée, comment on tient une réunion des saints. De surcroît à cela, est-ce que la prophétie cadre avec ce que la Bible nous enseigne sur le cœur de Dieu, sur la pensée de Dieu, sur les sentiments qui doivent animer le prophète? Par exemple, on voit souvent des prophètes, entre guillemets, toujours prophètes, qui parlent et qui annoncent des châtiments et tout ça. Et justement, dans ce chapitre 23 de Jérémie, on parle, ces gens-là sont en train d'appeler le châtiment, la destruction et tout ça, alors que la seule chose que Dieu a dit, c'est « je vais pas vous punir, je vais juste m'éloigner ». Mais très souvent, emporté par ses propres émotions, par ses propres pensées et par sa propre méchanceté et la méchanceté de son cœur, ce soi-disant prophète va faire passer ses émotions avant le message biblique. Alors la parole de Dieu vient nous recadrer, on l'espère, celui qui écoute ce message en disant, voici, on va aller étudier, voir est-ce que ceci cadre avec la parole de Dieu. Si on regarde ce qui se passait dans le Nouveau Testament avec l'église de Bérée, lorsque l'église de Bérée recevait les enseignements de Paul, aujourd'hui les écrits de Paul sont considérés comme le Logos, mais la première fois ils ont été émis, ils étaient à la base un réma, une inspiration d'un moment par Dieu qui était donné à l'église. Donc il y avait ce message spontané, ponctuel, qui était donné, qui aujourd'hui, oui, fait partie du Logos, mais qui à la base était mentionné sous forme de réma. Donc l'église de Bérée, qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible nous dit qu'ils prenaient l'enseignement, et après ça, ils allaient le comparer aux Écritures, ils rentraient chez eux, l'étudiaient au regard ou à la loupe des Écritures pour voir si ça cadrait, oui ou non. Lorsqu'une prophétie nous est donnée, nous avons donc le devoir, nous aussi, à l'instar de ce que l'Église de Bérée faisait, de prendre ce message et de dire, est-ce que ça cadre? Est-ce que ça cadre dans le contexte biblique? Est-ce que ça cadre dans la vision biblique? Est-ce que ça cadre dans le mode d'opération que la Bible nous donne? Et si ça ne cadre pas là-dedans, alors on peut effectivement évincer cette parabole, ou cette parole plutôt, cette prophétie. Donc la parole de Dieu vient tout d'abord nettoyer ce que la fausse prophétie pourrait avoir implanté. En tant que feu, la parole de Dieu, en deuxième point, vient aussi sanctionner le faux prophète. Lorsqu'on parle d'un feu, on parle non seulement d'un feu qui nettoie, mais le feu représente aussi le jugement de Dieu par rapport à des serviteurs ou par rapport à l'homme. On se rappelle que dans les temps futurs, il y aura ce qu'on appelle la géhenne, les temps de feu, l'enfer, qui est tout à fait factuel et dans lequel se retrouve toute personne qui n'a pas reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur et qui n'a pas vécu en conséquence ou conséquemment au fait qu'il a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc le feu est aussi un symbole de sanction. Dans le passage de Jérémie 23, ce que le feu va sanctionner, oui, il nettoie la fausse prophétie, mais de surcroît à ça, il sanctionne aussi le faux prophète. Alors on ne veut pas que le feu de Dieu tombe sur nous, parce qu'on émet de fausses prophéties, parce qu'on laisse nos cœurs s'emballer, et qu'on commence à prétendre être messager de Dieu, et pourtant ce ne sont que nos émotions et le fruit de notre propre cupidité, le fruit de notre propre orgueil qui nous pousse à parler. Donc la parole de Dieu sanctionne le faux prophète. Mais de surcroît à cela, dans un cas moins pire, va-t-on dire, la parole de Dieu vient aussi affiner l'œuvre du prophète. La prophétie, comme tout autre don et tout autre ministère, est dans un processus d'amélioration. Lorsqu'on commence à prêcher, même si on a une onction particulière de la part de Dieu, on n'enseigne pas à la première journée comme on enseignera à la 20e année. Je suis le pasteur que je suis et je suis l'enseignant que je suis, mais je sais qu'il y a une énorme évolution entre ma toute première prédication, si on pouvait l'appeler prédication, alors que j'avais 8-9 ans, dans le culte familial où je vais prendre le verset qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Et je dis à mes parents dans le culte familial, « Alors moi, je suis plus proche du royaume de Dieu, parce que vous, vous êtes déjà adultes. Donc moi, je suis un enfant, vous, vous ne pouvez que qu'y ressembler. » Je suis très loin d'avoir cette attitude un peu vindicative que je pouvais avoir à 7, 8 ans ou 9 ans lorsque je prenais la Bible pour la première fois et que je faisais ma première prédication. De surcroît à ça, lorsque j'ai commencé dans le ministère, que ce soit avec l'école du dimanche, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit en tant qu'assistant pasteur, et lorsqu'on compare les prédications d'hier jusqu'à aujourd'hui, j'ose espérer, pour vous du moins, j'ose espérer que je suis un meilleur prédicateur que je ne l'étais à l'époque et que je suis peut-être un meilleur enseignant que je ne l'étais il y a 20 ou 30 ans en arrière et peut-être même un peu plus loin. Donc, au même titre où le prédicateur s'améliore, au même titre, la parole de Dieu vient affiner le travail du prophète. Encore faut-il que le prophète soit disposé à être affiné. Mais le feu de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui vient nettoyer, qui vient sanctionner, qui vient affiner, n'est pas toujours dans une pensée de destruction, n'est pas toujours dans une pensée de sanction, mais parfois c'est aussi dans une pensée d'affinage, dans une pensée d'amélioration. Dans une pensée de rendre meilleur le serviteur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, encore faut-il que ce serviteur soit disposé à apprendre. Donc les trois choses qu'on a vues avec ce premier verset qui nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu? » dit l'Éternel. Un, la parole de Dieu vient nettoyer ce que la fausse prophétie pourrait avoir implanté. Lorsqu'on met dans une balance où on met en opposition une prédication ou la parole de Dieu, le logos, versus la prophétie, voir est-ce que cette prophétie cadre avec la parole de Dieu. Deuxièmement, cette parole vient sanctionner le faux prophète. Le feu peut être effectivement un feu destructeur qui vient sanctionner le prophète. Troisièmement, la parole de Dieu vient affiner, bonifier, travailler, transformer la vie et l'œuvre du prophète. En souhaitant toujours que le prophète, à sa première journée, à sa première prophétie, soit, oui, loin de Dieu, mais effectivement, il saisira mieux, il comprendra mieux, il entendra mieux la prophétie, la parole spontanée qui lui est donnée. Avec le temps, je parle de la prophétie très souvent et de la perception de la voix de Dieu très souvent comme lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un. Au début, vous rencontrez une personne et cette personne doit vous dire, voici, je m'appelle de tel prénom, je viens de tel endroit. Et plus vous passez du temps avec cette personne, plus la présence de cette personne vous est usuelle. Et à un moment donné, vous avez passé tellement de temps qu'un simple regard vous laisse savoir effectivement ce que la personne pense. Avez-vous son approbation, sa désapprobation? Avez-vous un regard qui vous dit fais attention ou un regard qui dit eh, vas-y, tu as mon appui. Donc, avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est la même chose qu'avec un coup de téléphone la première fois où quelqu'un vous appelle. Peut-être que vous avez besoin de voir le numéro de téléphone, d'entendre la voix qui vous dit, voici, je m'appelle Ta-ta-ta-ta-ta. Par contre, quand ça fait 1000, 1500, 2000 appels que cette personne vous fait, peut-être que le numéro de téléphone n'est plus à être affiché, son nom n'a plus à être prononcé, mais à peine vous soulevez le combiné, vous entendez le bruit ambiant, vous entendez la respiration de la personne et vous êtes capable de dire oui, je sais qui est cette personne et vous ne vous trompez pas. Donc avec la voix de Dieu, il y a cette habitude qu'on prend et cet apprentissage de la voix de Dieu qui se fait avec le temps aussi. Deuxième passage dans Luc au chapitre 24, le verset 32. Luc 24, 32. C'est à la fin de ce tête-à-tête que deux disciples vont avoir à la résurrection de Jésus avec Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux serviteurs ou ces deux disciples ont quitté Jérusalem. Jésus est mort depuis 3 jours, c'est au matin de la résurrection, et eux ont quitté Jérusalem et se dirigent vers Emmaüs. Et Jésus se présente à eux, va cheminer avec eux, va leur demander pourquoi ils ont le visage si triste, et va leur expliquer comme quoi Jésus l'avait annoncé qu'il devait mourir. Les Écritures l'avaient annoncé, et Jésus va leur expliquer. Eux ne voient pas Jésus, ne comprennent pas que c'est Jésus, et ils l'invitent à passer la soirée chez eux. Et c'est simplement au moment où Jésus va briser le pain que leurs yeux vont s'ouvrir. Jésus va disparaître, mais eux vont dire à ce moment-là le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Je répète, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Alors oui, il n'y a pas le terme du feu dans ce passage-ci. Donc, il n'y a pas la symbolique pure et simple de parole de Dieu est un feu. Toutefois, on nous explique ici que les Écritures expliquées par Jésus devaient apporter ou devaient enflammer le cœur de ses disciples. Du moins, c'est ce qu'ils ressentaient. Leur cœur s'est enflammé lorsqu'ils entendaient effectivement Jésus leur parler, leur expliquer à travers les Écritures combien il avait été annoncé qu'il devait mourir et ressusciter le troisième jour. Trois termes importants ici. Brûler, le terme kayo, K-A-Y-O, qui va nous parler d'enflammer, d'allumer, d'embraser et de consumer. Donc, enflammer le cœur, allumer le cœur, embraser le cœur, consumer le cœur, puisqu'ils disent, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas? Deuxième terme, parler, laleo, L-A-L-E-O, L-A-L-E-O, et qui veut dire donc déclarer, qui veut dire prononcer, qui veut dire émettre, qui veut dire aussi révéler une chose. Expliquer, dianoigo, dianoigo, donc D-I-A-N-O-I-G-O, expliquer, dianoigo, et je tiens cette définition, je vous l'explique dans quelques instants. Alors, premièrement, retournons sur le terme brûler. Ces disciples sont là, viennent de se rendre compte que celui qui avait cheminé durant tous ces kilomètres avec eux était Jésus, qui avait pris le temps de leur expliquer les Écritures au sujet de la mort et de la résurrection du Sauveur. Et eux se demandent l'un à l'autre, est-ce que notre cœur n'était pas en train de brûler? Est-ce que notre cœur n'était pas enflammé alors qu'il nous parlait, qu'il nous expliquait tout cela? Et la question pour toi et pour moi, est-ce que la parole de Dieu m'enflamme? Est-ce que la parole de Dieu m'allume? C'est une expression très contemporaine, mais elle a le mérite d'être claire. Est-ce que ça t'allume d'étudier la parole de Dieu? Est-ce que ça t'allume que Dieu puisse se révéler à toi à travers sa parole. Est-ce que tu lis cette parole et tu t'allumes par rapport à un verset que tu lis et par rapport à une révélation que tu reçois ou une révélation qui t'est expliquée à travers la parole de Dieu? Je parlais dimanche avec une jeune fille qui venait me voir pour me demander après l'assemblée, mais pasteur, comment on fait pour s'approcher de Dieu? Et je lui disais, ben déjà, prendre du temps dans la parole de Dieu, à prendre du temps à étudier la parole de Dieu et à prendre du plaisir aussi dans l'étude de cette parole de Dieu. Et elle me disait, mais parfois, j'ai pas toujours du plaisir à le faire. Et je lui expliquais que je n'ai pas moi non plus à étudier la parole de Dieu. Il y avait même pendant un certain temps où la parole de Dieu me semblait être cachée, impénétrable. Je lisais, je ne comprenais pas ce que je lisais. Et à un moment donné, j'ai fait une prière spécifique en demandant au Seigneur, « Seigneur, fais que cette parole explose à mes yeux. Fais que cette parole puisse vraiment avoir vraiment l'apparence d'une explosion. » Et je peux vous dire que ça l'a effectivement, ou ça a effectivement cette apparence-là. Très régulièrement, je vais tout simplement lire la parole, puis c'est un verset que j'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Puis là, tout d'un coup, il y a un mot qui éclate devant moi. Je dis, mais comment je suis passé à côté de ce mot-là? Comment se fait-il que j'ai pas vu ce mot-là qui change ma perception, qui pousse beaucoup plus loin encore la parole de Dieu, et ça m'enflamme. Donc la question pour toi, est-ce que la parole de Dieu t'enflamme? C'est peut-être pour ça qu'on est obligé de prendre un mois à parler de l'importance de la parole de Dieu, parce qu'on est devenu si, entre guillemets, accoutumé à celle-ci, qu'on n'est plus impressionnable. Je ne sais pas si le terme existe, mais je l'utilise malgré tout. On ne se laisse plus impressionner par la parole de Dieu. On la regarde comme quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Et puis, on vient pratiquement à mépriser la richesse et la profondeur de celle-ci. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient éclater devant mes yeux, je suis ramené à cet état de petitesse par rapport à cette parole. Et je suis en pamoison devant la parole, je suis en étonnement profond par rapport à la parole. Deuxièmement, est-ce que la parole de Dieu, ou ce qu'elle déclare, m'enflamme? Est-ce que ça m'enflamme de voir ce que la parole de Dieu dit? Et enflammer dans le bon sens du terme, pas te mettre en colère, mais te allumer un zèle en toi, allumer un entrain renouvelé en toi. Est-ce que ce que la parole de Dieu déclare, peu importe ce qu'elle déclare, que ces choses-là soient déclarées, qu'ils vont, que ça va dans un même sens que ta pensée, ou que ce qu'elle déclare vienne en conflit, en combat, voire en contradiction avec ta pensée humaine, mais malgré tout, est-ce que cela t'enflamme? Est-ce que cela t'allume? Donc, est-ce que la parole de Dieu, un, t'enflamme, mais est-ce qu'elle déclare? Donc, oui, j'aime la parole de Dieu, mais ce qu'elle dit, est-ce que ça t'enflamme aussi? Et de surcroît à cela, et c'est là où le terme expliqué devient intéressant, le terme dianoigo, je vous lance la question tout d'abord, est-ce que ce que la parole de Dieu me fait découvrir m'enflamme? Le terme expliqué est très imagé. Expliquer, dianoigo, va avoir une image très nette et très claire qui dit « ouvrir ce qui était fermé ».« Ouvrir ce qui était fermé ». Foncièrement, ce que la Bible est en train de dire, c'est qu'elle vient éveiller la faculté de comprendre et la faculté d'apprendre. La parole de Dieu elle-même, par elle-même, à cette puissance d'ouvrir ta compréhension et d'ouvrir ta faculté d'apprentissage. Plusieurs viennent me voir en disant, « Mais pasteur, je ne suis pas un bon étudiant. Pasteur, j'ai de la difficulté à retenir. Pasteur, j'ai des limites, que ce soit pédagogiques, intellectuelles ou autres, pour saisir. » La parole de Dieu le sait. Dieu le sait. Et malgré tout, et malgré ces limites que tu peux rencontrer, que tu peux avoir, qui sont peut-être effectivement des limites réelles, malgré tout, Dieu se révèle à toi à travers cette parole et te permet d'apprendre. Je ne vous nommerai pas qui, mais il y a quelqu'un dans l'Église à un moment donné dont une sœur disait, mais ce que cette personne est en train de découvrir de la part de Dieu, c'est vraiment Dieu qui ouvre son intelligence parce que cette personne n'avait pas les outils nécessaires. Et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout mesquin par rapport à cette personne. C'était même remarqué et déclaré ce que Dieu était effectivement en train d'accomplir dans cette personne. Et aujourd'hui, je n'en nommerai pas la personne, mais aujourd'hui, cette personne est effectivement quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, qui est capable de la partager, de la décortiquer, et qui va très loin dans sa compréhension et dans sa révélation que Dieu lui donne de la parole de Dieu pour instruire son peuple. Et c'est une bénédiction, effectivement, que Dieu lui a accordée. Donc, la parole de Dieu a cette faculté d'ouvrir ta compréhension et d'ouvrir ta capacité d'apprentissage. Alors, est-ce que ce que la parole de Dieu est appelée à faire dans ta vie, est-ce que ça t'enflamme? Est-ce que ça t'enflamme de savoir que la parole de Dieu va ouvrir ta capacité intellectuelle, va ouvrir ta capacité spirituelle, va outrepasser ou va briser peut-être les murs que tu peux avoir dans le monde naturel, dans tes capacités naturelles? La parole de Dieu va les défoncer pour que tu puisses croître et continuer à croître à chaque jour à travers cette parole. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu dans l'Ancien Testament que la parole de Dieu va venir nettoyer la fausse prophétie ou nettoyer ce qu'elle pourrait avoir implanté en toi, va sanctionner la fausse prophétie et le faux prophète, voire va venir affiner aussi l'œuvre du prophète réel. La parole de Dieu vient malgré tout, malgré l'onction, va venir peaufiner l'œuvre du prophète authentique. Dans le Nouveau Testament, on a vu que la parole de Dieu devrait nous enflammer. Au même titre où ses disciples disaient, mais on sentait quelque chose quand il nous parlait, on doit se poser la question, est-ce que la parole de Dieu m'enflamme? Si elle ne m'enflamme pas, on a un problème, essayons de le régler, voyons le Seigneur, allons parler avec lui et demandons-lui, comme moi j'ai eu, je dirais, cette sagesse de demander au Seigneur, « Seigneur, fais en sorte que cette parole éclate devant mes yeux, fais en sorte qu'il y ait cet entrain, et je peux vous dire que j'aime étudier la parole de Dieu. » Donc, la parole de Dieu m'enflamme-t-elle? Est-ce que ce que la parole de Dieu déclare m'enflamme, que ça aille dans mon sens ou que ça aille contre moi, est-ce que ce qu'elle dit m'enflamme? Est-ce que ce que la parole de Dieu me fait découvrir m'enflamme? Est-ce que de découvrir quelque chose dans la parole de Dieu, ça allume un feu dans ma vie? Enfin, est-ce que ce que la parole de Dieu est appelée à exécuter dans ma vie, ouvrir mon entendement, ouvrir ma compréhension, faire croître mes capacités, est-ce que cela m'enflamme? Est-ce que cela m'allume? De fait, savoir que Dieu va ouvrir ce qui était fermé avec sa parole, est-ce que ça m'allume? Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. La parole, un feu qui nettoie, qui sanctionne, mais aussi qui motive, qui enflamme, qui donne de l'entrain. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée encore une fois d'être challengé, d'être mis au défi par ta parole, d'être secoué peut-être par celle-ci. On comprend, Seigneur, que ta parole reste le roc immuable à travers lequel, Seigneur, nous venons à juger une prophétie et à juger même un prophète. Seigneur, nous prions que ta parole ne vienne pas nous sanctionner parce que nous nous serions présentés en prétendant parler en ton nom alors que nous ne parlions que de notre propre chef, de notre propre imagination. Merci aussi, Seigneur, de ce que ta parole peaufine notre œuvre. Que ce soit, Seigneur, l'œuvre d'un prophète qui débute, que ce soit, Seigneur, l'œuvre de quelqu'un même qui a de l'expérience. Ta parole, Seigneur, vient façonner, vient transformer notre vie et notre ministère. Et peut-être encore plus important, Seigneur, un questionnement aujourd'hui. Est-ce que je suis encore enflammé par ta parole? Est-ce que ta parole m'enflamme? Est-ce que ce qu'elle m'enseigne, même quand ça va pas dans ce que j'espérais qu'elle me dise, est-ce qu'elle m'enflamme malgré tout? Est-ce que je suis enflammé, allumé de ce que je découvre de ta parole? Est-ce que ça suscite une faim, une soif, un intérêt, un entrain renouvelé, tout simplement de plonger mes regards dans ta parole? Est-ce que je suis content, Seigneur, de ce que ta parole est appelée à faire dans ma vie? Ces transformations, ces changements que ta parole est appelée à faire, est-ce que ça m'allume? Où ça me laisse froid, ça me laisse tout simplement impassible. Je prie, Seigneur, qu'on ne soit pas impassible par rapport à ta parole. Je prie, Seigneur, qu'on ne soit pas insensible à ta parole, mais que celle-ci, Seigneur, nous rende malléable, doux, émotif, nous rende, Seigneur, plus comme toi par l'apport de celle-ci dans nos vies. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je demande Seigneur que ta parole leur soit accordée aujourd'hui, que tu te révèles à eux et que tu leur permettes Seigneur de s'approfondir, de grandir en toi et d'être une fois de plus, peut-être une toute première fois, je ne sais, être émerveillé par cette grande et merveilleuse et riche et profonde parole. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, avant de terminer, simplement vous rappeler qu'on a étude biblique ce soir à 19h. On reprend le texte de dimanche sur la bonne terre dans la parabole du semeur et la parabole donc de ces terrains qui reçoivent la parole de Dieu. Donc, on prie que vous soyez là ce soir à 19h, heure de Montréal. Bien entendu, et on sera là, nous, au rendez-vous. Et sinon, on se retrouve demain matin pour un 20e symbole concernant la parole de Dieu. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, et on se retrouve ce soir à 19h. N'oubliez pas non plus les inscriptions pour l'assemblée de dimanche en présentiel sur courriel, par courriel uniquement pour vous inscrire, ou sinon par téléphone, donc sur la boîte vocale de l'Église. Sur ce, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, et on se retrouve ce soir ou demain matin. Au revoir tout le monde.